Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Oracle reçoit pour vous aujourd'hui le docteur Gadi Abraham du Centre évangélique Ebenezer.
Chers frères et chers sœurs, ce jour nous sommes engagés à vous apporter la parole de Dieu. Et le thème que nous abordons, c'est la victoire et la puissance par le sang de Jésus. Je voudrais vous saluer et je voudrais vous demander de prier avec moi afin que Dieu se glorifie et que sa parole ait un impact dans nos vies. Père, je te remercie pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est puissante. Ta parole libère, elle guérit. Elle donne l'intelligence à ceux qui ne sont pas intelligents et la sagesse à ceux qui ne sont pas sages. Oui, mais ta sagesse est supérieure à la sagesse des hommes. C'est pourquoi je te remercie pour la manière dont tu te glorifies à travers cette parole. Père, je voudrais parler de la victoire par le sang de Jésus. Je voudrais que cet enseignement puisse faire du bien aux frères ou ceux qui écoutent à la radio et que ton nom soit glorifié. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Connaître la victoire par le sang de Jésus-Christ. La manifestation de la victoire, la puissance de Dieu se réalise à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je vais parler de cela. Vous savez, quand nous comprenons les principes de Dieu, nous avons effectivement la manifestation de la grâce de Dieu, de sa puissance dans nos vies. Parce que l'autorité vient de la parole. Or, il se trouve que malheureusement, dans notre environnement, je dirais principalement africain, la peur et le doute nous assaillent. La peur des démons, la peur de Satan qui serait présent partout, des démons qu'on verrait partout, à travers les magouillards, à travers les cafards, et partout. Si vu qu'on a la psychose de la peur, on est plus conscient, n'est-ce pas, de la présence des forces occultes que de la présence glorieuse de Dieu. On est plus conscient de la puissance du diable que de la victoire remportée par le sang de Christ, Dieu qui nous arrête. Il faut savoir que c'est une stratégie qui n'a jamais changé. Lorsqu'il y a eu la bataille entre les Israélites et puis les Philistins, Goliath a procédé par la terreur et par la peur. Et lorsqu'il venait dans le champ de bataille ou sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il faisait? Mais il criait très fortement. Et les gens paniquaient, ça lui fuyait. Et cette stratégie n'a jamais changé. En réalité, le fait de croire que le diable est présent partout et que ces démons sont présents un peu partout, sème notre atmosphère où la charge ou la surcharge de peur et de défaite. Ce qui fait la défaite des chrétiens, c'est le doute. Et c'est la peur. Lorsque Pierre a commencé à douter, il s'est enfoncé dans l'eau alors que Jésus était sur l'eau. Mais je crois plutôt que plus nous parlerons de Christ, de sa croix, donc de sa victoire, de l'œuvre sacrificielle à la croix, de son sang qui a versé, des mérites de son sang, des acquis de son sang, plus nous en parlerons, notre atmosphère sera chargée différemment, donc sera chargée de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de la puissance de Dieu, et nous aurons une vie totalement libérée. Gloire à Dieu. Chers frères et chers sœurs, je voudrais vraiment prendre, pendant ces quelques temps, vous enseigner sur ce thème important. La puissance et la victoire par le sang de Jésus de Nazareth. Alors, nous verrons bien sûr cela en quatre parties. Nous verrons d'abord l'importance et la signification du sang dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Pourquoi le sang est important? Pourquoi est-ce que la victoire et la puissance de Dieu se manifestent au travers du sang et du sang de Jésus de Nazareth? Et nous verrons plus tard les acquis du sang de Jésus-Christ, notamment le sang de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Alors, quelle est l'importance et la signification du sang dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Il faut préciser que le sang est lié au sacrifice. Bien entendu, on ne peut pas avoir du sang sans sacrifice. Je ne parle pas des blessures ou des maîtrisures, je parle vraiment du sang versé par rapport à un acte de sacrifice, qui est un acte hautement spirituel. Et il faut savoir que le sang en lui-même, le sang versé, n'est-ce pas, d'un animal ou par rapport à un sacrifice, qu'il soit humain ou autre chose, est un acte hautement spirituel. Ouais, le sang, il est différent de quelque liquide que ce soit. Je vais démontrer cela en montrant que si, bien entendu, vous avez dans une maison et puis bon, un enfant a fait pipi ou, n'est-ce pas, a déféqué, on se va sentir, on va prendre un balai puis on va balayer. Mais s'il se trouve que le matin, vous réveillant, vous voyez du sang partout dans votre maison, vous allez paniquer. Vous demanderez qu'est-ce qui se passe. Vous allez avoir peur, vous aurez du mal même à prendre un balai à le nettoyer. Vous allez commencer à invoquer, à prier pour que quelque chose se passe parce que vous ne savez pas pourquoi le sang est là. Donc le sang n'est pas un liquide ordinaire. Le sang a un sens spirituel éminemment important. Même au niveau humain, le sang est important parce que toutes les maladies du sang, y compris le cancer du sang, c'est-à-dire la leucémie ou le sida, sont des maladies qui sont difficilement guérissables. Il faut vraiment toute la grâce de Dieu pour arriver à la guérison de ce genre de maladies. Donc, en fait, quand on parle du sang, on pense ici au sacrifice qui est fait. Donc, le sang versé, c'est un échange qui se produit. Et la révélation de l'importance du sang à travers le sacrifice est quelque chose qui est éminemment important. N'est-ce pas? Dans la Bible, dans la Genèse chapitre 3, le verset 21, nous voyons déjà une manifestation de ce que peut représenter le sang au niveau spirituel dans l'Ancien Testament. Lorsque Ève a péché, donc lorsque Ève a été séduite par le serpent, d'abord en sémant dans son cœur et dans son esprit le doute par rapport à la parole de Dieu, et qu'il y a eu la manifestation des trois péchés principaux, c'est-à-dire la séduction de la vie, l'orgueil de la vie et tout ça, la convoitise des yeux, et que Ève est tombée dans le péché, qu'elle a entraîné dans sa chute vertigineuse à Adam. Elle a donné à manger à Adam, c'est une histoire que nous connaissons parfaitement, et le péché est entré dans le monde ainsi. Et Dieu a maudit, n'est-ce pas, Adam et Ève. Et les deux ont reconnu qu'ils étaient tout à fait nus. Et va se produire un acte qui est particulier. Lorsque Adam et Ève vont reconnaître qu'ils étaient nus, bien entendu, Dieu va vraiment se mettre en colère. Et plus tard, pour couvrir cette nudité, la Bible déclare, donc dans ce passage-là, vous pouvez voir ça au verset 21, n'est-ce pas, de Genèse chapitre 3, il est dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Comment est-ce que Dieu s'est arrangé, n'est-ce pas, pour avoir des peaux de brebis? On estime de manière implicite que Dieu a opéré un sacrifice. Et c'est vraiment là, on voit déjà, n'est-ce pas, de manière implicite, bien entendu, l'idée d'un sacrifice qui est fait. Dieu aurait pu prendre des feuilles pour couvrir la nudité, mais non, mais Dieu a pris la peau, il a dit les peaux, hein, des habits de peau, donc d'un animal, pour couvrir la nudité. Un échange était ainsi en train de se produire, parce qu'il fallait absolument que leur nudité soit tout à fait couverte. On voit déjà ici l'importance du sacrifice qui accompagnait du sang ici. Une importance, même si c'est pas encore très, très explicite, nous le voyons déjà de manière tout à fait, je dirais, un peu évidente. Ensuite, vous remarquez de manière précise que le sang commence à apparaître à partir, de manière précise, à partir du chapitre 9 de la Genèse. Là, je suis en train d'entrer dans la signification et l'importance du sang. Et quand nous comprenons cela, nous serons ce que c'est que le sang de Christ. Nous serons ce que c'est la victoire par le sang de Christ. Nous serons ce que sont les mérites, les acquis à travers le sang de Christ. Ainsi que, bien sûr, nous pourrons voir cela dans nos propres vies, dans nos affaires, dans nos familles. Et quand nous allons prier en invoquant le sang de Christ, nous saurons de manière tout à fait consciente ce que nous invoquons et ce que nous avons comme acquis, comme victoire, comme puissance, parce que la victoire et la puissance se trouvent dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mais déjà, le sang lui-même est un acte spirituel qui est présent dans l'Ancien Testament. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Dans le chapitre 9 de la Genèse, lorsque Dieu, après avoir donc fait descend la pluie et qu'il a plu pendant, n'est-ce pas, 40 jours, 40 nuits et que la terre a connu le premier déluge. Noé est sorti indemne avec sa famille. Et comme un acte d'adoration, Noé a posé un acte, l'a posé un autel. Dieu bénit Noé ainsi que ses fils. Genèse chapitre 9, verset 1. Prenez vos Bibles avec moi. Dieu leur dit ceci: soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et de terreur pour tout animal de la terre, pour tous les oiseaux du ciel, pour tout ce qui rampe sur le sol et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Ce passage est clair, il est formidable. Il contient plusieurs enseignements. D'abord, Dieu nous dit qu'il ne faut pas verser le sang parce que le sang, c'est la vie. C'est important à comprendre, chers frères et chers sœurs, vous qui suivez ce message. Et vous qui êtes là, je vous demande vraiment de suivre cela de manière attentive. Dieu interdit formellement, après qu'il ait prononcé des paroles de bénédiction, soyez féconds, vous allez avoir la domination sur les oiseaux, sur les animaux, des champs et partout. Dieu dit, mais, il fait une interdiction formelle de manger l'animal avec son sang, ou de verser le sang. Et Dieu précise pourquoi il ne faut pas le faire, parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. La vie d'un homme se trouve dans son sang. On parle d'hémoglobine blanc, d'hémoglobine rouge, et ce sont ces différents, n'est-ce pas, hémoglobines qui luttent, n'est-ce pas, qui luttent contre les microbes et tous les virus qui viennent, n'est-ce pas, dans le corps humain. Et c'est pourquoi tout à l'heure je parlais, n'est-ce pas, du sida, de cette maladie de sang, parce que ces maladies attaquent, n'est-ce pas, le système défensif de l'homme. Et quand le système défensif de l'homme est vaincu complètement, cet homme ne résistera pas à la maladie, il sera emporté rapidement. C'est dire que le sang est vital, le sang c'est la vie. Déjà, Dieu, en parlant ainsi, était en train de montrer l'importance du sang de Christ qui serait versé plus tard dans le Nouveau Testament. Parce que je fais un parallèle entre, n'est-ce pas, ce que dit l'Ancien Testament, qui est l'homme des choses à venir, et toute la révélation éclairée et lumineuse, n'est-ce pas, que nous avons dans le Nouveau Testament, qui est de manière plus claire l'accomplissement de l'Ancien Testament. Donc, Dieu interdit à l'homme et à tout homme de verser le sang, de manger l'homme avec son sang, ou de verser le sang humain, ou de manger l'animal avec son sang. Parce que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Je voudrais insister juste là. Le sang, c'est la vie. Parce que le sang est précieux. Dans Lévitique chapitre 17, nous voyons également l'interdiction qui est répétée. Lévitique chapitre 17, c'est le troisième livre de l'Ancien Testament. Chapitre 17, du verset 12 au verset 14. Il est dit dans ce passage ceci. Même à partir du verset 10. Si un homme de la maison d'Israël ou des émigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang, je la retrancherai du milieu de son peuple. Regardez, Dieu veut retrancher, il dit il va retrancher tout homme qui consomme le sang de quelqu'un. Car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour votre vie, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Donc, comme la vie de l'homme se trouve dans le sang, lorsque le sang est invoqué ou qu'il est répandu, qu'il est aspergé, alors la vie qu'il y a dans le sang vient enlever le péché qui entraîne la mort vient couvrir le péché. Donc, quand le sang est versé, c'est comme un échange, c'est comme si la vie est versée. C'est comme la vie est versée. Au verset 12, il dit, c'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, personne d'entre vous ne consommera du sang et les migrants qui résident au milieu de vous ne consommera pas de sang. Si quelqu'un des Israélites ou des immigrants qui résident au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange et y en répandra le sang et le couvrira de poussière, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez pas le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en consommera sera retranché. Si quelqu'un lit ce passage, il peut dire, mais Dieu est trop sévère, Dieu est trop strict. Un sème liquide dans le corps humain qu'on mange, pourquoi est-ce que Dieu veut retrancher quelqu'un? Non, le sang a une signification spirituelle importante. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Et je le précise, le sens de la vie. Donc, pour montrer que Dieu préparait déjà, à travers ces passages dans l'Ancien Testament, le sacrifice de son fils à la croix. Donc, si dans le sang, il y a la vie, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si j'invoque le sang de Christ sur ma vie, à moi, sur mes affaires, si la mort était en train de prendre ma vie, si mon corps était en train de mourir, si la mort se trouvait dans mon panier, dans mon âme, dans mes émotions, dans mon corps ou dans mon sang, la vie qu'il y a dans le sang va se manifester parce que la vie, n'est-ce pas, va agir et un échange va se produire. C'est pourquoi le sang de Christ est la vie. Et Jésus lui-même l'a précisé dans Jean chapitre 6, verset 53 à 54. Regardez dans vos Bibles pour comprendre un peu toute cette importance du sang. Pourquoi le sang est important? Et pourquoi est-ce que Satan sait que c'est important? C'est pourquoi il essaie de ne pas de faire en sorte que ces gens d'enseignement qui libèrent le peuple ne soient pas enseignés, et qu'on enseigne plutôt sur les Satan, son organisation, les démons qui sont passés, qui sont dans les cafards, qui sont dans les souris, qui poursuivent les gens la nuit, tout ça parce qu'on a fait un songe, on a fait un rêve. Non, chers frères et chers sœurs, soyez libérés de ces peurs. Dans le sang, il y a la vie. Si dans le sang d'un animal, il y a la vie. Si dans le sang d'un homme, il y a la vie, à comme les plus fortes raisons, la vie ne va-t-elle pas se manifester au travers du sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair? Si le sang est dans la vie de Jésus-Christ, ça veut dire que la mort ne peut pas me toucher, parce que le sang qui est la vie de Christ et qui se trouve dans la vie de Christ va se manifester, il va parler pour moi. Alléluia. Et je crois à cette parole. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 6, le verset 53, verset 54. Voilà ce qu'il écrit là. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange la chair et qui boit mon sang, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Et dès que rien ne mange ma chair et ne boit mon sang, n'a pas la vie. Ça veut dire que la vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. La vie dans son sang. La vie dans son sang. Chers frères, chers sœurs, vous qui écoutez, ou qui êtes là dans cette assemblée, rappelez-vous quelque chose. Jésus dit que si parce que quelqu'un ne mange sa chair et ne boit son sang, cette personne n'a pas la vie. Mais si quelqu'un mange et boit son sang, cette personne a la vie. La vie se trouve dans le sang de Jésus. Votre corps est-il malade? La mort s'est-il approchée de vous? La mort frappe-t-elle à la porte de votre famille? La mort se trouve-t-elle dans votre sang parce que votre sang est contaminé par des maladies de sang comme la leucémie ou le cancer ou le sida? Et vous avez peur, vous savez que la mort s'approche de vous. Maintenant même, invoque le sang de Christ sur ta vie. Invoque le sang de Christ sur ta vie. Parce que dans le sang de Christ, il y a la vie de Jésus. Sa vie glorieuse. En versant son sang, il a versé sa vie. Il a versé sa puissance. Il a versé sa gloire. Chers frères et chers sœurs, maintenant même, si tu as atteint du mal de sang, ou ceux qui ont des problèmes de maladies héréditaires par rapport au sang, les trépanocytoses, dont le corps est souvent fatigué, les os sont, invoque le sang de Christ sur ta vie, et dit, Seigneur, tu vois, la maladie est en moi, la maladie se trouve dans mon sang, dans mes nerfs, que maintenant même, à cause des mérites qu'il y a dans ton sang, à cause de la vie qu'il y a dans ton sang me couvre, et que la maladie qui apporte la mort, la maladie qui apporte la mort, la paralysie, ou qui apporte la malédiction, cette maladie-là, s'en aille, parce que la vie se trouve dans ton sang. Chers frères, chers sœurs, invoque le sang de Christ. Invoque le sang de Christ. C'est la raison pour laquelle Dieu avait interdit, depuis l'Ancien Testament, depuis Genèse chapitre 9, Lévitique chapitre 17, il avait interdit que les hommes mangent du sang. Même le sang des animaux, Dieu l'interdisait. Parce que Christ est l'agneau pascal. Alléluia. Le sang a un sens spirituel profond. C'est pourquoi quand nous avons ces révélations, ce genre de révélations, Satan ne peut plus nous distraire. Les démons ne peuvent plus nous distraire. Parce qu'ils savent qu'on a la révélation de la victoire et de la puissance par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et en l'invoquant, la vie qu'il y a dans le sang de Christ, la vie qu'il y a dans le sang de Christ se manifestera. Elle se manifestera certainement parce que Dieu est lié par sa parole. Alléluia. Je crois à ces paroles. Vous savez, le sang est précieux. Deuxième sens encore, le sang est précieux aux yeux de Dieu. Si nous retenons dans la Genèse chapitre 9, verset 5 à 6, nous voyons exactement la même chose. Toujours, Dieu donnant des instructions à Noé, c'est clair, et c'est verset 5 et verset 6, Dieu dit ceci. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout homme, je le réclamerai à chaque homme, la vie de l'homme qui est son sang. Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Et dans Lévitique chapitre 17, on l'a vu tout à l'heure, verset 12, Dieu dit qu'il va retrancher tout homme qui verse le sang ou qui mange le sang. Parce que le sang est précieux. Dieu a gardé, n'est-ce pas, à travers le sang, quelque chose de puissant. Pour que ses enfants, pour que ses serviteurs invoquent les mérites du sang de Christ et que leur vie ne soit plus une vie liée, dominée, une vie d'esclavage. Parce qu'on ne connaît pas les principes de la parole de Dieu. Et moi, je crois à la puissance de la parole de Dieu. La vie se trouve dans le sang. C'est pourquoi maintenant, pendant que tu écoutes ce message, chers frères, chers sœurs, rejette la mort, rejette la maladie, rejette la malédiction, parce que la vie se trouve dans le sang. En invoquant le sang de Christ, ta victoire germe. Femme, ou homme, si vos entrailles sont mortes parce qu'il n'y a plus de vie, il n'y a pas de fertilité, invoque la vie qu'il y a dans le sang de Christ. Cette vie va se loger dans vos entrailles. Et ce qui était impossible en termes de puissance, en termes d'infertilité, en termes de stérilité, la vie qu'il y a dans le sang de Christ va se mouvoir. Homme et femme ou homme, je m'excuse, mais si tes spermatozoïdes sont impuissants, ne sont plus vivants, pour certaines personnes, il n'y a pas d'enfant parce que, n'est-ce pas, les spermatozoïdes sont faibles, ils sont paresseux, il n'y a pas de vie. Maintenant même, invoque le sang de Christ. Et la vie qu'il y a dans le sang de Christ va se manifester dans vos spermatozoïdes. Si votre sein maternel est pratiquement mort, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Et que vous ne pouvez pas enfanter parce que justement, on vous a déclaré stérile. C'est la médecine qui le dit. Parce que quand une femme accouche, elle porte en elle la vie. Maintenant même, il est possible. Maintenant même, femme, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Crois à la parole de Dieu. Dieu dit que la vie se trouve dans le sang. Invoque le sang du Christ dans tes entrailles. Dans vos entrailles. Si jusqu'à présent, vos entrailles n'ont pas encore reçu la vie en elles, il n'y a pas d'enfant. Maintenant même, invoque la vie qu'il y a dans le sang de Jésus. Invoque cette vie-là. Cette vie va se manifester. Et ce qui était impossible va devenir possible. Et la vie va se manifester. Et vous verrez qu'effectivement, la vie se trouve dans le sang. Je dois pouvoir le dire parce que la vie se trouve dans le sang. Troisième élément à faire remarquer, c'est que le sang a une voix. Le sang a une voix. Le sang, c'est la vie. Le sang est précieux aux yeux de Dieu, mais le sang a une voix. Dans la Genèse chapitre 4, nous sommes pour l'instant au commencement parce qu'il faut étudier cela de manière claire, de manière progressive. Dans Genèse chapitre 4, le verset 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Caïn était très arrogant, mais vraiment. Alors Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à toi. Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Aïe, aïe, aïe. Et la révélation de cette parole, chers frères et chers sœurs, et croyez à la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit ici que le sang d'Abel crie à lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang a une voix. Le sang parle. Le sang d'Abel crie vengeance. Le sang parle. Le sang versé par des femmes, par exemple, ceux qui dans la jeunesse et dans tant d'ignorance ont procédé à des avortements ou les hommes qui ont encouragé cela. Ouais, le sang de ces enfants versés crie vengeance. C'est pourquoi si vous écoutez ce message et que vous l'avez fait de manière à Dieu de vous pardonner, invoquez le sang de Christ sur votre vie pour que la voix du sang des enfants, n'est-ce pas, tuer les fœtus tués, parce que les fœtus c'est une vie. Là, ça bouge déjà. C'est démontré scientifiquement à quelques semaines déjà, la vie se met en place. Déjà là. Donc c'est le sang qui a été versé. C'est beau quand il y a l'avortement, le sang verse abondamment et beaucoup de femmes malheureusement périssent dans ce genre de situation là. Chers frères, chers sœurs, si vous l'avez fait, invoquez la grâce de Dieu pour qu'il vous pardonne parce qu'autrement dit, le sang va crier vengeance et la mort peut venir ou la malédiction peut venir. Ici, Caïn a été persévérant parce qu'il a demandé à Dieu de le garder et Dieu a fait sur son front un signe afin que si quelqu'un voit Caïn, il ne le tue pas parce que la voix du sang de son frère Abel avait crié contre lui si bien que si quelqu'un voyait Caïn plutôt, n'est-ce pas, il aurait eu une vengeance, il serait mort. Si le sang a une voix et crie vengeance, à combien de plus fortes raisons le sang de Jésus-Christ. Et si le sang d'Abel crie vengeance, si le sang des hommes versé crie vengeance, crie la mort, crie la malédiction, comme dans le cas de Caïn, a comme les plus fortes raisons, le sang de Christ. Le sang de Christ ne crie plus vengeance, il crie pas la mort, il crie pas malédiction, le sang de Christ crie pardon. Il crie miséricorde, il crie bénédiction, il crie salut, il crie guérison, il crie protection, il crie délivrance, il crie élévation, il crie distinction. Chers frères, chers sœurs, en invoquant le sang de Christ sur ta vie, le sang de Christ parle pour toi. Alléluia. Le sang de Christ parle pour toi. C'est pourquoi celui qui a écrit Hébreu a reçu la révélation à partir du passage de Genèse chapitre 4. Il a compris que le sang avait une voix. Et dans Hébreu chapitre 12, verset 22, nous voyons ici cette explication claire de ce passage que nous avons lu tout à l'heure dans la Genèse. Hébreu chapitre 12. Vous savez, mais au contraire, vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia! Le sang de Christ est appelé le sang de l'aspersion. Un. Le sang a été aspergé. Le sang de Christ a été aspergé et il a fait l'aspersion par son sang. Il a fait l'aspersion du ciel par son sang, des cieux par son sang. C'est écrit dans Hébreu. Et ici, il dit que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Chers frères et chers sœurs, à chaque fois que tu invoques le sang de Christ parle pour toi. S'il y a des voix qui parlent contre toi ou contre vous, parce qu'on parle beaucoup de démons, des sorciers, des liens ancestraux, des parents qui ou villages qui parlent contre vous, qui ont jeté des mauvais sorts. Sachez qu'il y a une voix qui parle mieux que le sang, que la voix de ces personnes-là. C'est la voix du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il vous est réclamé dans le monde spirituel pour être passé au crible comme le froment, quand vous invoquez le sang de Jésus-Christ, ce sang-là parle pour vous. Et ce sang fait taire toutes les voix qui s'élèvent contre vous. Le sang de Christ a une voix. Le sang de Christ parle. Chers frères, chers sœurs, en priant et en invoquant le sang de Christ, vous êtes en train de laisser le sang de Christ parler pour vous, plaider pour vous, afin que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à vous. Ou le sang de Christ parle pour votre famille, pour garder votre famille, ou garder vos affaires. Le sang de Christ parle. Troisième élément, c'est que le sang parle. Le sang a une voix. Le sang plaide. Le sang de Christ a une voix. Il a dit le sang de l'aspersion. C'est que c'est un sang qui était aspergé. Regardez encore dans vos Bibles. Dans Hébreu toujours. Au chapitre 4 maintenant, le verset 14 à 16. Il est important que nous ayons toutes ces données. Parce que c'est la parole qui libère. La connaissance de la parole de Dieu nous libère des frayeurs et de la peur. C'est, n'est-ce pas? La connaissance plus l'obéissance donne la victoire. Voilà, la connaissance plus l'obéissance à la parole de Dieu dans la victoire. Ça, c'est une équation, c'est une formule qu'il faut connaître. Donc, quand vous connaissez, n'est-ce pas, la parole et que vous savez obéir à la volonté de Dieu, vous avez forcément la victoire et la bénédiction. Aucune bénédiction ne vient comme ça par des prières qu'on fait avec des jeunes comme ceci, des jeunes Moïse. C'est la connaissance de la parole de Dieu et l'obéissance à cette parole qui donne la bénédiction. Il n'y a rien d'autre qui donne la bénédiction que ça. Autrement dit, ce qu'on a comme bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas bénir en dehors de sa parole. Regardez ce qui est écrit ici, dans Hébreu chapitre 4, jusqu'au verset 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Vous savez, dans cet testament, on parle de souverain sacrificateur. On ne parle pas de grand souverain sacrificateur. On ne parle pas de grand. Donc, l'adjectif grand met la différence entre Jésus et les autres sacrificateurs. C'était, les autres étaient des principaux sacrificateurs. Mais Jésus est appelé grand souverain sacrificateur. L'adjectif grand a son sens. Quand vous lisez la Bible, il faut tout lire, y compris les adjectifs. Faire la différence entre des situations, n'est-ce pas, qui se présentent à vous. Donc, il est dit ici, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Jésus, le Fils de Dieu, tenant ferme la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il a dit que Jésus-Christ a traversé les cieux. Avec quoi? Avec son sang. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 12, verset 22, il nous a parlé jusqu'au verset 24, il nous a parlé du sang de l'aspersion. Et Christ, en montant, il a traversé les cieux. Donc, il a fait l'aspersion du ciel. J'aime bien dire qu'il a purifié le ciel. Parce que quand Satan et ses démons ont été chassés, ils sont venus sur la terre, c'est vrai, mais ils sont restés aussi dans, la Bible parle de prince de l'air. Mais Christ, en traversant les cieux, a traversé les cieux avec son sang, pour présenter au Père son sacrifice. Cela est extrêmement important parce que tout à l'heure, je vais aborder une question qui peut paraître un peu théologique. Est-ce que les démons peuvent continuer à bloquer à la prière des chrétiens? C'est la question que je pose. Est-ce que les démons peuvent continuer ou continuent toujours à bloquer la réponse des prières des chrétiens? Puisque Jésus-Christ a fait l'aspersion du ciel par son sang. Il a traversé le ciel. Je me dis qu'il a créé un grand boulevard. Regardez ce qui est écrit dans Jean chapitre 20. Pour comprendre que toute la parole de Dieu se complète. Dans Jean chapitre 20, un acte s'est produit lorsque Marie de Magdala s'est rendue au tombeau de Jésus. Au chapitre 20, voilà ce que Jésus dit. Jésus lui dit, il parle ici à Marie. Elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. Écoutez la révélation de la parole de Dieu. Jésus est le grand souverain sacrificateur. Et comme vous le savez, Le souverain sacrificateur devait chaque année aller dans le Saint des Saints pour présenter le sang pour le pardon de ses propres péchés et le pardon des péchés, n'est-ce pas, du peuple d'Israël. C'était la troisième partie, n'est-ce pas, du temple. Le sanctuaire, le parvis, n'est-ce pas, le lieu saint et le lieu très saint. Il devrait absolument présenter le sang du sacrifice. Si le principal sacrificateur ne le faisait pas, ou le souverain sacrificateur ne le faisait pas, s'il y entrait, et si par hasard ce jour-là, il avait oublié d'entrer avec le sang de l'animal du sacrifice, qu'est-ce qui s'est passé? Il allait mourir. Il y entrait avec des clochers à ses pieds. Il allait mourir. Dieu allait le frapper parce que la miséricorde de Dieu ne pouvait être obtenue qu'à travers le sang, parce que dans le sang, il y a la vie. Le sang plaide. Puisqu'il faut que Dieu exerce sa justice. L'amour de Dieu est aussi lié à sa justice. Si Dieu doit exercer sa justice, il exerce pleinement, mais cette justice-là peut être retardée si, n'est-ce pas, il y a un acte de miséricorde, il y a un acte d'amour. Or, le sang étant l'échange de la vie, alors quand Dieu voit le sang, alors sa justice n'agit plus, c'est son amour qui agit et le pardon est accordé. Vois un peu ce schéma. Christ étant le grand souverain sacrificateur, selon Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16, il devait aller présenter son sacrifice. Il a traversé le premier ciel, que je peux appeler comme le parvis. Le deuxième ciel, qui est le lieu saint. Et le troisième ciel, qui est le saint des saints. Donc, Christ a traversé le deuxième ciel, qui est le siège des démons, et il a vaincu, il a fait l'aspersion du ciel par son sang, il est monté, présenté son sacrifice au Père. Mais regarde ce qui est écrit dans Jean chapitre 20. Il est dit que Jésus a dit à Marie, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Jésus avait été arrêté dans son ascension, dans son mouvement-là. Et je crois même que c'est biblique. Jésus est d'abord ressuscité, il est d'abord monté au ciel. Il est revenu être avec ses disciples avant qu'il ne reparte pour toujours. Mais le jour, quand il partait présenter son sacrifice, il n'y a que Marie qui l'a vu. Or, à l'ascension, tous les disciples l'ont vu. Vous voyez la différence. Donc, il y a eu deux montées. La montée pour aller présenter son sacrifice au Père. Là, c'était pour dire, Père, c'est accompli. L'acte a été accompli. J'ai racheté pour toi des hommes de tous les peuples. Voici mon sang qui va désormais être le sang des vocations, afin que les vies humaines ne soient plus tuées dans l'esclavage et que les hommes soient pardonnés, que les vies soient effacées, que les péchés soient effacés. Dans le sacrifice de Christ, il y a la puissance. Chers frères, chers sœurs, comprenez ces paroles. Ça vous libère de la peur de l'ennemi. Ça vous libère de la peur de l'ennemi et ça brise toutes les œuvres des puissants des ténèbres. Jésus dit à Marie, ne me touche pas. Il fallait qu'il parte présenter son sacrifice. Qu'il parte présenter son sacrifice au Père. Et ce sacrifice-là est un sacrifice définitif et total. Il nous a acquis le salut éternel. Il nous a acquis la délivrance. Il nous a acquis la victoire sur Satan et ses démons. Il nous a acquis la liberté totale. Notre conscience ne peut plus nous gronder. On ne peut plus être tenu lié par ces mensonges du diable, tentant à nous faire croire que nous sommes rien, qu'on est vaincu, qu'on va mourir. Le 31 décembre, Jésus-Christ, par son sang, il a fait l'aspersion du ciel. Et son sang nous purifie. Et nous pouvons être exaucés. Nous pouvons être exaucés. C'est pourquoi je demande, est-ce que les démons peuvent toujours continuer à bloquer la réponse des prières des chrétiens? Puisque Christ, par son sang, a fait l'aspersion du ciel. C'est pourquoi il a écrit, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse. Parce que j'aime fou la Bible, parce que la Bible est la vérité. Dans Apocalypse chapitre 4, il est dit ceci au verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel. Dieu a ouvert une porte dans le ciel à travers le sang de son fils, à travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, chers sœurs, vous qui écoutez ce message, que le suivez. Des portes sont-ils fermées? Sachez qu'au ciel, une porte vous est ouverte. Jean dit, j'ai vu une porte ouverte au ciel. Le sang de Christ a ouvert la porte du ciel. La porte du ciel est ouverte. Mes prières montent au ciel et elles sont exaucées. Si je ne suis pas exaucé, c'est pas parce que Satan est fourni, ses démons sont forts. Si je ne suis pas exaucé, ça cause ma désobéissance, ça cause ma vie de péché. La Bible le dit d'ailleurs dans Ésaïe chapitre 59. Est-ce que la main de Dieu est trop courte pour agir? Ou serait-elle trop dure pour entendre? Il dit non, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Quel démon qui va venir bloquer ma prière? Quel démon? Comme on dit dans la télévision, il va passer par où? Puisque le sang de Christ a fait l'aspersion du ciel. Il a fait l'aspersion du ciel et une porte est ouverte. Vous savez, quand le principal sacrificateur entrait dans le Saint des Saints, il y entrait une fois par année avec son sang. Il partait, n'est-ce pas, devant le propitiatoire. N'est-ce pas? Là, à l'intérieur, avec le bâton de Aaron qui avait fleuri. Devant l'arche, qui était le symbole de la présence de Dieu. Ce qu'il faut voir, hein, dans ce moment précis, c'est que le sang nous ouvre l'accès au Père, l'accès à la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous ouvre l'accès du Saint des Saints. De manière parallèle, dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints avec le sang devant l'arche de Dieu qui était le symbole de la présence de Dieu. La même manière, Jésus-Christ a traversé le premier ciel, a traversé le deuxième ciel. Il est allé au troisième ciel, donc dans le Saint des Saints, pour présenter son sacrifice. C'est juste des parallèles que je fais. Même si c'est pas exact, mais c'est un peu comme ça que je suis en train de voir. Le temple, le tabernacle était créé, construit par les mains d'hommes. Mais ça, c'est Dieu qui l'a fait, le ciel, l'univers entier est fait par Dieu. Et Christ l'a fait lui-même, avec son propre sang, pour que nous ayons accès au Père. Chers frères, chers sœurs, nous avons accès au Père à cause du sang. Nous avons accès au Saint des Saints à cause du sang. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 7 à 8, nous avons cela de manière claire. Hébreux chapitre 9, verset 7 à 8, je lis cela. Il dit, mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par année, non sans y verser du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ce sont là des ordonnances charnelles relatives seulement à des aliments, des boissons, des diverses ablutions imposées jusqu'à un temps de réforme. Et la réforme est arrivée, c'est-à-dire Christ a, de manière totale, réussi à entrer une fois pour toujours dans le Saint des Saints et son sang a été présenté. C'est pourquoi c'est par le sang de Christ que moi, Gadi Abraham, que vous avez accès à la présence de Dieu. Notre adoration n'est possible et ne peut être reçue que à cause du sacrifice de Christ. Le sang de Christ nous ouvre les portes du Saint des Saints. Ce ne sont pas nos mérites. Je vais me préciser encore. Des fois, on prend le jeûne et la prière comme étant des techniques pour la délivrance ou pour l'exaucement de prière. Moi, je prie et je jeûne et c'est vrai. À l'église, on a des prières jusqu'à en fin d'année. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas les mérites du sang de Christ que nous avons l'exaucement de prière. C'est par les mérites du sang de Christ que notre adoration monte. C'est par les mérites du sang de Christ que c'est possible. Mon adoration monte parce que Jésus a versé son sang. Son sang parle. Son sang libère. Son sang guérit. Le sang de Christ nous rapproche du trône de la grâce. C'est pourquoi Hébreux le dit. Il dit, approche-nous donc du trône de la grâce afin que nous soyons secourus au moins opportun, et que Dieu réponde à nos besoins. La réponse à nos prières sont d'abord, ou viennent d'abord des mérites du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères, chers sœurs, nous allons prier maintenant. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Jésus est le souverain sacrificateur. Son sang a été versé. Son sang a été versé. Et son sang parle mieux que le sang d'Abel. Si le sang des animaux avait un sens spirituel, et jusqu'à présent, un sens spirituel, les sacrifices qui sont faits pour faire les fétiches, ou je sais pas quoi, ces pratiques de sorcellerie que nous redoutons tant, et toutes ces pratiques occultes, ça avec quoi? Ça avec le sang? Lorsque dans un sacrifice mystique, on arrive à sacrifier un homme, c'est vraiment le sacrifice suprême par le sang. Des fois, ça marche, pour ceux qui sont pas en Christ, et ça traîne, n'est-ce pas, des malédictions. Alors si la malédiction, et si même la richesse matérielle, peuvent venir du sacrifice humain. À comme les faux pour des raisons. La richesse financière en Dieu, la richesse spirituelle, la distinction, la guérison ne viendront-elles pas du sang de Jésus-Christ de Nazareth? Chers frères, chers sœurs, croyons à la parole de Dieu. Madame et chers frères, dans vos vies, dans vos entrailles, sentez-vous la mort dans vos jambes, dans vos entrailles, dans vos yeux, invoquez le sang du Christ. La vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans son sang. La vie se trouve dans son sang. La stérilité peut passer. La stérilité est le symbole de la mort. Mais le sang de Christ est le symbole de la vie. Invoque ça dans ta vie et la vie va se manifester. On va prier, mais Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu nous enseignes en ce jour que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. que dans le sang, il y a la vie. Je prie maintenant pour toutes les personnes qui sentent en elles-mêmes la mort à travers la maladie, la mort dans leur corps, dans les os, dans leurs chefs, dans leurs affaires. J'invoque le sang de Christ, afin que le sang de Christ, qui est la vie, se manifeste dans leur vie, dans leurs affaires, dans toute leur famille, au nom de Jésus de Nazareth. Comme la vie se trouve dans ton sang, ô Seigneur, tu manifestes ta vie à travers ton sang, dans tous les domaines de la vie de chaque personne ici présente, et dans la vie de ceux qui écoutent ce message. Oh Dieu, tu le fais. Quelqu'un est-il atteint par une maladie comme le sida ou comme le cancer du sang, c'est-à-dire la leucémie? Invoque le sang de Christ. J'invoque maintenant le sang de Christ dans tes os, dans ton sang. Et que les globules blancs, les globules rouges retrouvent la vie et la vigueur. Avez-vous, y a-t-il un problème de stérilité ou d'enfantement? J'invoque maintenant le sang de Christ et la vie de Christ se manifeste maintenant dans vos entrailles. Oh Dieu, il y a des personnes qui entendent des voix de la mort, qui sentent en eux les pressions, qui ne réussiront pas, qui vont mourir tôt, qui vont mourir jeunes, qui ont fait d'accidents d'avion ou de route ou par bateau. Père, je prie maintenant que le sang de Christ, qui parle mieux que le sang d'Abel, parle pour ces personnes. Parle pour ces personnes et que toutes les voix étrangères se taisent. J'ordonne maintenant à l'ennemi de se taire parce que le sang de Christ parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, y a-t-il des personnes qui sentent en eux-mêmes qu'il y a des blocages dans leur vie? Le sang de Christ a fait l'aspersion du ciel et j'ordonne maintenant que tout ce qui est blocage psychologique ou spirituel à cause de la vie des personnes. Père, je prie maintenant que le sang de Christ qui a fait l'aspersion du ciel fasse l'aspersion du ciel et que la porte qui est ouverte au ciel soit la porte de l'exaucement, la porte de la délivrance, la porte de la guérison. Parce qu'une porte est ouverte au ciel à cause du sacrifice de Jésus de Nazareth. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit sur nous.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.